Journal de Maïma. Le haka de l'oiseau. Yann m'aide à me relever. Il s'est accroupi au bord de la route, alors que je dénoue avec difficulté les lianes enroulées autour de mes chevilles, sans cesser de surveiller avec méfiance le fourgon noir garé au bout de la route.
« Eh bien ?»
commente mon capitaine.
« Si t'avais été poursuivi par une tribu de cannibales de la vallée d'en face, t'aurais pas été loin avant de finir sacrifié sur le paé-paé. »
J'arrache les dernières lianes, vexé. J'observe, près du fourgon, la silhouette boiteuse de Charlie entamer l'ascension sur l'étroit sentier boueux qui prolonge la route, en direction du vieux cimetière de TIVTT. Il est accompagné d'un homme plus jeune, beau gosse, jean slim noir et chemise blanche. Manuari, le tatoueur Akitanae a confié la mission d'aider Pito le jardinier à transporter le corps de PYF jusqu'à la cave du Pharé du Soleil Redouté. Ils sont ici pour ça, pas pour moi. C'est ce qu'ils ont raconté. Mais que se serait-il passé si Yann n'était pas arrivé? C'est Tanae qui les a envoyés et Tanae ment. Elle ne veut pas qu'on sache ce qui se cache au vieux cimetière, ce que Farain avait découvert hier. Le soleil du matin joue aux pompiers et assèche en vapeur tiède le goudron encore mouillé. J'accepte la main tendue de Yann et je me redresse, pieds nus sur le bitume qui fume.
Comment m'as-tu retrouvé?
Tanae m'a prévenu aussitôt que t'as disparu.
Et t'as couru derrière moi?
Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser te promener toute seule à Iwaoa? T'aurais pu tomber sur n'importe qui. Des types pas aussi gentils que Pito et Manuari.
Les deux hommes ont déjà disparu, là où le chemin se perd dans la forêt. Sont-ils envoyés en mission commando par Tanae pour tout nettoyer? Ils ne voulaient pas m'écraser, juste m'éviter alors que je courais sur la route. C'est la version que mon capitaine a avalée. Ils m'énervent tous, depuis ce matin, à essayer de me protéger. Je me retiens de balancer à Yann. « Laisse tomber, t'es pas mon père !» Je me contente de serrer les poings et de lui montrer le chemin. « Ok, mon capitaine. C'est cool que tu sois là. Tu m'accompagnes au vieux cimetière ?»«
Je crois qu'il y a plus urgent avant. »
Il ne comprend rien. Je prends sa main. « J'ai trouvé, Yann. J'ai trouvé ce que signifie l'Enata à l'envers. La solution est là-bas. » Je tire sur son bras. J'ai l'impression d'être une enfant qui veut montrer un trésor à un adulte qui ne la croit pas.
Plus tard, Maïma.
Plus tard, j'ai envie de mordre son poignet qui serre plus fermement ma main et déjà me force à rebrousser chemin. Est-il jaloux de s'être fait doubler par son adjointe, après s'être fait devancer par sa femme hier?
Il faut qu'on parle,
ajoute Yann.
Tu m'as menti, Maïma. Tu m'as menti depuis le début.
Toutes mes forces cèdent d'un coup. Seuls mes mots luttent encore.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu...
Le 20 mai 2017. Wainé Pearl Farm. Ça te rappelle quelque chose?
Je ne dis plus rien. Même mes mots ont capitulé. Je reste silencieuse pendant tout le chemin, à réfléchir, à peser ce que j'ai à perdre, au fond. Alors qu'on entre dans le village, j'ai pris ma décision. Tout expliqué. Puisque mon capitaine a tout deviné. Nous tournons sur la droite après la boutique Tattoo. Laissons passer un pick-up chargé de sacs de jute bourrés de copra et nous nous installons sur le Tohua, la grande place du village rénovée à l'occasion du Festival des Arts des Îles Marquises de 2003. Avec sa pelouse rase, ses gradins de pierre rouge, les grands tikis roses qui en gardent l'entrée, on dirait un stade de foot pour extraterrestres. La dernière fois que j'y suis entré, c'était dans une autre vie. J'étais en CE1, je crois. J'avais 7 ans. J'y avais dansé le haka de l'oiseau pour la fête de l'école, devant tout le village, devant papa et maman aussi. Évidemment, ma maman d'avant, je veux dire. Je serais encore capable de danser ce haka. Aucune marquisienne n'oublie cette chorégraphie. On n'oublie rien quand on grandit. C'est juste qu'on n'en a plus envie. Tout ce dont j'ai encore envie aujourd'hui passera aussi. Rire, courir, se foutre de tout et surtout des sous. Marcher pieds nus. Je deviendrai comme maman. Ma maman d'aujourd'hui. Avec, comme seule préoccupation en me levant le matin, la couleur de mes chaussures et du vernis à orteils assorti. Je me tourne vers mon capitaine, les yeux mouillés de larmes.
Ne m'interromps pas, Yann. S'il te plaît, ne m'interromps pas. Je vais commencer par le commencement. Maman. Marie-Ambre, je veux dire, mais tu as compris. Tout le monde prend Marie-Ambre pour une idiote, une de ces popas super riches, qui se prélassent à Bora Bora en matant les jeunes Polynésiens musclés, qui boivent et fument trop, qui dépensent sans compter. Une victime sans défense des guides et des moniteurs de plongée, une gentille arnaquée. Sauf que tout le monde se trompe. Marie-Ambre appartient à l'autre camp, celui des arnaqueuses. Mais revenons au début, par le point le plus important. Alors, tu as compris, mon capitaine ? Marie-Ambre n'a pas d'argent. Rien. Même pas 1 000 francs pacifiques sur son compte. Tout est bidon. Ses fringues de marque, son sac Dior, ses lunettes de soleil Cartier, ses maillots de bain RS. Ce ne sont que des contrefaçons achetées au marché aux fripes à papeté. Autant te dire que toutes ses promesses à Servanastine sont en plomb. Le remboursement des billets d'avion, l'ardoise de la pension, une semaine complète pour 7 invités au soleil redouté. C'est pas maman qui va les régler. Elle m'avait fait jurer de ne rien dire, et tu te doutes bien que je n'allais pas la dénoncer. D'après ce que je sais, maman a contacté Pierre-Yves François sur les réseaux sociaux alors qu'il était encore en France et s'intéressait aux marquises. Il cherchait des infos pour son prochain roman. Elle a flairé le bon plan. PYF aussi, sûrement. Vu le diaporama de photos d'elle en maillot de bain que maman laissait en accès libre sur sa page Facebook. Elle lui a joué le coup de la groupie raide dingue de ses livres. Elle lui a proposé de financer intégralement un atelier d'écriture au bout du monde, au cœur du décor de son futur roman, à Ivaoa. Une jolie façon de joindre l'utile à l'agréable. PYF n'a pas eu de mal à convaincre son éditrice de monter une telle opération qui ne lui coûtait pas un rond. Je suppose que le plan de maman était, une fois sur place, de séduire l'écrivain millionnaire et célibataire. Elle y a mis du cœur à l'ouvrage, je peux te le dire. Elle, que je n'avais jamais vue ouvrir un livre, les a dévorés jusqu'à l'indigestion, en quelques semaines, avant que toute la petite troupe débarque à l'aérodrome Jacques Brel.
Et ton papa ?
Demande doucement Yann.
Et ton papa, dans tout ça ?
Et mon papa ? Il faut aussi que je raconte cela. Je regarde la terre ocre du Tohua devant moi, l'estrade gardée par les tiki roses. Je me souviens, je dansais devant tous les parents de l'école, pas seulement papa et maman. Je portais un tapa blanc, le costume traditionnel en écorce que papa était allé tailler pour moi dans la forêt sur un tronc de mûrier. Un voile passe devant mes yeux. Je les baisse et les laisse traîner sur les sandales poussiéreuses de mon capitaine. Pour papa, si tu as lu la presse, tu sais déjà. Il habite à Tahiti aujourd'hui, en colocation, dans un 5 mètres carrés, à la prison de Nuutania. Il a signé un bail qui court encore pendant 9 ans. Marie-Ambre ne vous a pas menti sur un point. Sur un point, au moins, il a réellement fait fortune dans la culture de perles noires. Une fortune colossale, estimée à 100 millions de francs pacifiques. Il l'a tenue entre ses mains pendant 17 jours exactement. Son idée était géniale, vraiment. On habitait Fayé, un petit village de moins de 50 habitants. Je passais mes journées à nourrir les anguilles sacrées aux yeux bleus sous le pont. Ça amusait les touristes, ça payait bien en pourboire. Mais mon père était plus ambitieux. Il fallait qu'il fasse fortune vite, s'il voulait que la belle Ambre continue de regarder son ratisseur de plage avec des yeux amoureux. À moins 1 kilomètre de notre village, au beau milieu du lagon, était installée la seule ferme perlière de l'île, Waine Pearl Farm. On y amène les touristes uniquement par pirogue. 3 minutes de traversée, vue paradisiaque, explication souriante sur la grève des huîtres et la sélection des nacres, musée boutique sur pilotis. Les touristes achètent sans compter. L'idée a germé dans la tête de papa. Il y avait dans cette ferme sur l'eau pour plus de 100 millions de bijoux. Et pas un vigile, pas un signal d'alarme, pas une caméra de surveillance. N'importe qui pouvait louer un bateau, acheter une cagoule, une arme factice, et venir se servir. C'est ce qu'a fait mon père, ce 20 mai 2017, à la nuit tombée. Tout a fonctionné à merveille. Il est reparti avec des sacs contenant un butin de plusieurs millions, sans un seul coup de feu tiré. Il avait juste oublié un détail. Un détail de rien du tout, mon génie de papa. Waine est une île. Une petite île, 10 kilomètres sur 5, avec un tout petit aéroport, de tout petits bateaux, impossible de la quitter autrement. Et tu te doutes qu'à défaut de pouvoir coffrer le braqueur, la police s'est mise à fouiller les bagages de chaque voyageur,
avec plus de vigilance que les douaniers de JFK après le 11 septembre. Papa était coincé, à moins de faire sortir les perles une par une en les portant autour de son cou. Il a quand même fini par tenter le coup. Il a bourré de perles un tube de dentifrice, des flacons de shampoing, une petite bombe de mousse à raser bricolée et a essayé de passer. Raté. C'est pile ce à quoi les flics s'attendaient. Il a dû rendre toutes les perles, jusqu'à la dernière. Marie-Ambre n'a même pas pu en garder une seule autour de son cou. Elle a dû se contenter d'une malheureuse catégorie C achetée sur un marché pour donner le change à Eva Oa. Heureusement, les policiers ont reconnu son innocence. Et la mienne. Ce qui était vrai. Papa avait monté son plan foireux tout seul, comme un grand. Mon capitaine s'est assis à son tour sur le rebord du Towa.
La perle de Martine, la top gemme accrochée dans la Salma Eva. C'est ta maman qui l'a volée?
Évidemment. Je l'ai compris juste après avoir mis les pieds dans les plats. Maman a toujours rêvé de porter une perle noire d'exception. Peut-être que papa a monté son braquage rien que pour ça. Peut-être que les flics se sont trompés. Qu'elle n'est pas si innocente que ça.
Tu lui en veux?
Grande question. Je me lève et j'avance de quelques mètres dans le Towa. J'esquisse un pas de danse sur l'herbe rase. Je serai encore capable de reproduire chaque mouvement du plus beau des hakas marquisiens. Le plus beau haka du monde. Danser, tourner, voler, visage de profil et coups graciles, pour ne jamais quitter des yeux l'oiseau imaginaire au-dessus de mon épaule. Grande question, mais Yann attend une réponse. Elle tient en trois lettres, mon capitaine. Oui. Oui et non. Quand papa s'est retrouvé en prison, Marie-Ambre aurait pu me larguer, me renvoyer à ma mère qui ne voulait plus entendre parler de moi, me confier à des cousins, aux Tuamotu, aux Australes ou aux Gambiers. Elle m'a gardé. Parce qu'elle m'aimait. Enfin, c'est ce que je croyais. En fait, elle avait surtout besoin de moi pour son plan. Un nouveau mec à qui s'accrocher. Une petite marquisienne, c'était l'idéal pour attirer le gros Pierre-Yves François à Eva Oa. Yann se lève à son tour. Il marche sur le Towa. Son regard semble fixer l'oiseau invisible au-dessus de mon épaule.
Ne dis pas ça, Maïma. Tu sais bien que...
C'est gentil, mon capitaine, mais j'ai plus l'âge de croire aux princesses charmantes qui recueillent les petites filles abandonnées. Elle ne m'a pas cité sur son testament. Pas une fois. Elle voulait être maman, pour de vrai. Comme si je n'existais pas. Pour une papa, le fa'amou n'existe pas. C'est bête, non? J'ai deux mamans, mais aucune ne veut de moi. Yann essaye encore de me contredire, mais je me faufile et sautille sur le Towa. Je suis légère, insouciante. J'ai 7 ans. Je souris, j'agite les mains pour faire s'envoler l'oiseau imaginaire. T'en fais pas. C'est ainsi sur les îles. Et tu sais, j'ai 16 ans, j'ai l'âge de faire un enfant. C'est cool. Je me vengerai sur lui en l'abandonnant. Allez, viens. Je prends appui sur l'un des tikis grimaçants qui garde l'entrée du Towa. J'escalade les gradins de pierre de tuf et je me retrouve dans la rue principale du village. Assez parlé de moi. Tu ne voulais pas connaître le secret du fameux Enata? Yann marche quelques mètres derrière moi. Je me hisse en équilibre sur le muret de pierre noire du petit parking de la banque Socredo et joue les funambules. Ce n'est pas difficile, mon capitaine. Si une gamine de 16 ans a trouvé. Enata, à l'envers.
Il signifie l'ennemi.
Allez, je vais t'aider. Je te donne un indice. Metaniquaki avait une petite amie qui a rompu avec lui. Les rapports des psychiatres estiment que cette rupture a tout déclenché, qu'il transférait sur ses victimes son désir pour elle. Une petite amie introuvable, dont on ignore le nom, mais dont on peut supposer... Les yeux de Yann s'éclairent.
Qu'elle porte le même tatouage?
Un Enata. Capitaine.
Un
E-na-ta. Je saute dans l'herbe et de la pointe de mon orteil, je trace les 5 lettres dans la terre brune. E-na-ta. Mon capitaine me regarde sans comprendre. Il est vraiment policier? J'insiste. À l'envers, un jeu d'enfant. Mon pied nu efface le E et le na. Reste le ta.
mon orteil retrace les mêmes lettres à l'envers. Na. Et E.
Putain,
murmure Yann. C'était là, devant nos yeux. Ah, enfin. J'épelle lentement les trois syllabes, en imitant la diction maladroite d'une enfant de 7 ans. Ta, na, et. Yann et moi marchons doucement en remontant vers le soleil redouté. Un nœud vient de céder. Tanae est l'ancienne petite amie de Metani Kwaki. Nous tentons de tirer tous les fils qui viennent de se libérer. Nous savons que Tanae a suivi une école hôtelière à Paris, avant de rentrer aux Marquises, sans doute plusieurs mois avant que Metani ne commette son premier crime. Elle n'est donc coupable de rien. Mais Kwaki, après avoir purgé sa peine de prison, est retournée à Iwaoa. En 2005, Tanae s'était mariée. Poe et Moana étaient déjà nés. Tanae l'a-t-elle protégée? Était-elle au courant de son passé? L'a-t-elle aidée à disparaître? À changer de nom? La solution repose-t-elle dans le vieux cimetière de Teivetete, là où Tumatai, le mari de Tanae, est enterré? Metani Kwaki aura une 60aine d'années aujourd'hui. Est-il un de ces marquisiens indolents et souriants qu'on croise tous les jours? Est-ce lui qui a tué Pierre-Yves François parce qu'il s'était approché trop près de la vérité? Sa nouvelle identité? Tout comme Farain après lui? Tout comme Martine avant eux? Si c'était le cas, si elle était au courant, comment la dévouée Tanae aurait-elle pu ne pas le dénoncer? Capitaine! Capitaine! Deux voix fluettes interpellent Yann à tue-tête. Capitaine! Capitaine! Pile au moment où nous longeons le champ où broutent sagement Miri, Fetia et Ava Inouï. Avant que j'aie le temps de réagir, les deux filles de Tanae surgissent côte à côte derrière les trois doubles poneys. Moana, main glissée dans la bandoulière d'une brosse à crin, Poe, botte aux pieds et fourche à la main. Yann s'approche du fil barbelé clôturant le champ. « C'est rapport à cette nuit !» crie Moana en agitant sa brosse. « Tu devais revenir nous voir !»«
Je suis là !»
assure Yann.
« J'ai fait aussi vite que j'ai pu, tout se précipite un peu. »«
Un peu, il fait dans l'euphémisme, mon capitaine. » Moana me jette un regard méfiant, mais ne me demande pas de m'éloigner. Respect de l'autorité. J'ai 2 ans de moins qu'elle, mais je suis l'adjointe officielle. « On est sorti hier soir, » raconte Poe, « sous la pluie, quand on a entendu Ava Inouï partir au galop avec la commandante sur son dos. On a essayé de rassurer les chevaux. Il faisait nuit, il y avait du vent. Quand on est arrivé dans le champ, » continue Moana, « c'était la panique. On a juste eu le temps de voir Miri détaler à son tour. Quelqu'un l'avait détaché, scellé et le montait. »
Vous avez eu le temps de voir qui c'était?
Poe relève sa fourche et reprend la main. Oui, même s'il faisait sombre, j'ai aucun doute. D'autant plus, ajoute Moana, qu'elle est revenue 1 heure plus tard. Elle a poussé la barrière et a lâché Miri dans le bas du champ. Elle a juste allumé la torche de son portable. Elle ne pouvait pas savoir qu'avec Poe, on se planquait de la pluie derrière la grange. Je m'approche moi aussi du fil barbelé.
Donc, vous l'avez reconnue?
S'impatiente Yann. Oui. Certifie Moana. C'était le téléphone portable de la commandante, le rouge à croix blanche. Même si je sais que je devrais me taire, j'interviens. Idiote! Le capitaine te demande si tu as reconnu celle qui le tenait. Poe et Moana me jettent 4 yeux noirs.
Celle qui est partie avec Miri,
reprend patiemment Yann,
juste après ma femme, et qui a ramené le poney à la pension 1 heure plus tard, pendant que je découvrais le cadavre de l'écrivain au vieux cimetière.
Poe et Moana semblent noyés par le flot de questions. Je ne peux pas me retenir de les secouer. Je demande en haussant le ton. « C'est la même, celle qui a pris le cheval, qui l'a ramené, qui a volé le portable de Farain ?»«
Laisse-les répondre. »
Me calme Yann. Pour la première fois depuis que je les connais, leurs 4 mains semblent désynchronisées. Poe s'accroche à sa fourche. Moana à la crinière de Miri, qui s'est approchée comme pour venir aux nouvelles. « Oui !» arrive enfin à placer Poe. C'est la même. On l'a reconnue toutes les deux, confirme Moana. On n'a rien dit, à personne, pas même à maman. On voulait vous en parler en premier, capitaine. Poe plante d'un coup sec sa fourche dans la terre. Son geste est si violent que Miri s'écarte un instant. Je me recule dans le même mouvement, avant que les derniers mots de Poe me pétrifient. C'est Clem. C'est elle qui est partie et revenue avec Miri cette nuit. C'est elle qui avait le téléphone de votre femme à la main. Capitaine.